19h17 sur France Inter, Arnaud Bousquet, c'est le téléphone sonne et des questionnements autour du modèle low cost.
Simple petite zone de turbulence ou dépressurisation générale chez Ryanair et globalement pour le modèle low cost, c'est effectivement la question que nous posons jusqu'à 20h. Merci Jérôme Val, bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonsoir. C'est vrai que Ryanair ne nous avait pas habitués à cela. Le pionnier du low cost aérien voyage à bas coût, en français dans le texte, devenu un géant de l'aérien avec ses 430 avions, ses 117 millions de passagers transportés en 2016. La grève historique, 400 vols annulés pour la seule journée de vendredi. Vous savez bien que pour permettre des billets à 5 euros, les pilotes devaient pas être payés très cher, mais là, c'en est trop ou plutôt pas assez pour le personnel navigant, hôtesse et steward compris.
Dans une année, j'avais fait 1500 heures, payé seulement 1100, et alors que des personnels navigants commerciaux comme Air France faisaient en moyenne 500 heures. Donc nous, on travaillait le double, voire le triple. J'avais un ami chez Air France qui me disait « mais vous, vous êtes les galériens du ciel ».
Alors, est-ce une révolte ? Non, sire, c'est une révolution, nous dira notre premier invité, Yves Lambeau. Bonsoir. Vous êtes en direct de Charleroi, en Belgique, l'un des aéroports historiques de Ryanair qui base une vingtaine de ces appareils sur ce site. Vous êtes secrétaire permanent du syndicat CNE. En studio à Paris, nous recevons Véronique Nguyen, enseignante à HEC et co-auteur du livre « Le business model du low cost ». Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Ryanair va sortir de l'orage sans encombre ou va falloir changer de cap ?
Ils vont devoir un petit peu s'adapter, mais ils ont du gras, hein, parce qu'avec leur taux de profit... Il y a vraiment
tout va
quoi
bien
faire.
Pour eux. Même question préambule à Emmanuel Combes, économiste et vice-président de l'autorité de la concurrence. Bonsoir.
Bonsoir Arnaud, bonsoir Véronique, bonsoir Yves.
Ça bouge juste un peu ou faut se diriger vers les toboggans ?
Non, je partage la même opinion que Véronique. C'est une turbulence, une crise de croissance, une crise d'adolescence qui n'avait pas été prévue, qui est plutôt une bonne nouvelle pour les pilotes, mais également pour le marché.
Alors la grève historique chez Ryanair marque-t-elle la fin de l'âge d'or du low cost ? Le modèle du toujours moins cher avec des conditions de travail toujours plus dures, toujours plus discutables, a-t-il fait long feu ? On vous attend au standard du téléphone sonne, vos questions, vos remarques, 01 45 24 7000 et sur la page de l'émission franceinter.fr. Soyez les bienvenus.
Arnaud Bousquet, le téléphone sonne.
Et on va poser la première question à Yves Lambeau qui nous attend à Charleroi en Belgique. Quel est, Yves Lambeau, l'élément ou la conjonction d'éléments qui fait qu'à un moment donné, le salarié de Ryanair, il dit stop ? Quel est le point de rupture ?
Mais justement, le point de rupture, c'est le salaire. Ce sont des salaires qui étaient promis précédemment aux alentours de 1500-1800 euros. Et effectivement, en fait, les nouveaux arrivants ne s'en sortent avec des salaires à peine de 1000 euros. Et 1000 euros pour vivre, une fois que vous avez déjà payé votre appartement, parce qu'ils doivent prendre des locations, vos moyens de transport pour l'aéroport, ben, il ne reste plus grand-chose. Donc c'est vraiment la rémunération, en tout cas en ce qui concerne le personnel de cabine, c'est là que les choses ont débordé. Et cette revendication, elle est internationale, elle est là pour tous les pays.
Alors ce sont des promesses salariales qui ne sont pas tenues chez Ryanair. Est-ce qu'il n'y a pas non plus le marché du travail qui est quand même bien plus favorable aux pilotes en ce moment et qui les met en position de force, Véronique Nguyen ?
Oui, c'est clairement l'expression d'un rapport de force, mais je pense qu'il est important de donner des chiffres pour pouvoir situer le débat. Ryanair est une entreprise qui a un taux de profit qui représente 23% de son chiffre d'affaires. Et les coûts de personnel représentent 10% du chiffre d'affaires. Quand vous comparez la structure de coûts de Ryanair par rapport à celle d'Air France, Air France a 30% de son chiffre d'affaires. D'accord, qui passe dans les frais de personnel. Donc entre 10 et 30%, vous voyez qu'il y a de quoi mieux rémunérer le personnel de Ryanair.
Emmanuel Combes, il va falloir qu'il s'assouplisse un petit peu le fameux président de Ryanair, O'Leary.
Mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Comme l'a très bien dit Yves, c'est le marché qui est favorable à la fois aux pilotes et au PNC. Hein. C'est la loi de l'offre et de la demande. Et donc, en effet, il faut s'attendre à des hausses de salaire conséquentes. Mais attention, revenons encore sur ce point. Ryanair a les moyens de s'adapter. Et ça a toujours été sa stratégie d'ailleurs, d'attendre le dernier moment, d'être mis au pied du mur. Regardez avec les subventions publiques.
Il y a eu des précédents sur d'autres sujets avec Ryanair.
Bien sûr,
il y a eu un rapport de force.
Toujours. Les aides aéroportuaires, on joue la montre. Mais ça ne remet pas en cause le modèle. Je crois que ça, c'est très important. attention à ne pas dire c'est la fin du low cost. Je pense même que c'est exactement l'inverse.
Ce n'est qu'un début. Crise d'adolescence. Donc
crise d'adolescence. Et puis Ryanair n'est pas low cost. Alors, Ryanair est une low cost.
Vous évoquiez effectivement les subventions. Il y en a une question là-dessus de Xavier qui nous appelle des Yvelines. Bonsoir Xavier.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Bonsoir Xavier.
Eh bien justement, j'ai découvert il y a quelques années qu'il y avait des aéroports régionaux qui versaient des sommes considérables à Ryanair pour que Ryanair daigne atterrir sur leur sol. Et j'avais déduit ces sommes du bilan de Ryanair. Et j'avais découvert que Ryanair était en faillite perpétuelle. Donc est-ce qu'il est normal qu'on fasse du low cost qui est payé en fait par les contribuables ?
Est-ce qu'il est normal que les contribuables attirent Ryanair sur les aéroports de province ? Qui veut se lancer là-dedans ? Emmanuel Combes.
Je comprends la question de monsieur. Attention à relativiser la portée. Il n'est pas interdit en droit européen de subventionner l'ouverture de lignes, notamment pour aider au démarrage. Et n'oublions pas que ces lignes peuvent avoir un impact local. Lorsque vous avez un Londres-Bergerac, autant vous dire que l'économie locale en a bénéficié. La question est celle de la proportionnalité des aides et de leur durée. Là où Ryanair peut poser problème, c'est lorsqu'elle exige, une fois que la ligne a démarré, que se poursuivent les subventions.
Avec souvent, on ne va pas rentrer dans un débat technique, mais avec souvent des travaux considérables faits sur ces aéroports de province. Rallonger la piste, par exemple, aménager l'aérogare, et puis au bout de 6 mois, Ryanair ou une autre low cost s'en va. Et là, c'est effectivement dur pour le contribuable. Il y a plein d'exemples.
Alors 6 mois, vous êtes un peu dur. En général, les aides au démarrage sont beaucoup plus longues. Et sans vouloir être provocant, Ryanair n'est pas la seule à avoir bénéficié. Notamment, une grande compagnie historique a également été condamnée pour subvention illicite. Donc attention, les subventions ne sont pas interdites. C'est une question de proportion.
Question sous-jacente à ce que nous disait Xavier. Parlez-nous de l'impact qu'a le low cost sur nos territoires. Parce que pour parler que de la France, c'est l'effet papillon. Il y a un Boeing de Ryanair qui atterrit à Bergerac ou à Limoges dans les années 90. Ça bouleverse les prix de l'immobilier dans toute la région 20 ans plus tard. C'est ça la réalité. Véronique Nguyen.
Oui, peut-être pour apporter une correction à ce qui a été dit par notre auditeur, il est pas tout à fait juste de dire que les subventions permettent à Ryanair d'être à l'équilibre, puisqu'en fait c'est une entreprise qui est extrêmement, extrêmement profitable et beaucoup plus profitable que les compagnies classiques. Moi, je ne suis pas choquée qu'un territoire donne une subvention à une entreprise qui va faire venir un flux de touristes, qui va dynamiser le territoire. Ensuite, là, vous relevez un impact négatif qui est que si vous avez beaucoup de touristes avec beaucoup de moyens, ça va générer peut-être des bulles immobilières et on se retrouve avec des locaux, des autochtones qui n'ont plus les moyens de se loger. Bon, il faut arriver à peser le pour et le contre.
N'hésitez pas à nous appeler si vous habitez les régions qu'on vient d'évoquer, mais je suis persuadé qu'il y en a plein d'autres, que ça soit la Dordogne ou le Limousin, 01 45 24 7000. Toujours sur ces collectivités locales, elles sont très demandeuses, on l'a dit, de low cost sur leurs petits aérodromes régionaux, même s'il faut faire à l'arrivée des gros sacrifices financiers pour les attirer. On en est où ? Est-ce que les départements, les agglomérations en sont un peu revenus, Emmanuel Combes ?
Pas forcément, parce qu'on revient toujours sur cette même question qui est de dire, certes, ça fait monter les prix de l'immobilier, mais n'oubliez pas l'impact économique, notamment sur l'emploi. Il y a eu des simulations assez intéressantes qui avaient été faites, ça date un peu, il y a une petite dizaine d'années par le gouvernement, on aboutissait à des chiffres qui étaient très conséquents, que ce soit sur la restauration, sur l'emploi local. Donc les collectivités locales sont quand même prises, si vous voulez, dans un calcul coût-bénéfice. Et en général, quand vous faites le ratio coût-bénéfice, vous apercevez que ça penche parfois du bon côté. Donc attention à ne pas stigmatiser par principe la subvention. J'ajoute à nouveau, Ryanair est un cas particulier. EasyJet ne touche pas de subvention en France. Elle aurait bien du mal. Elle décolle d'Orly, elle décolle de Roissy. Donc à nouveau, quand on dit le low cost, de quel low cost parle-t-on ? Nous parlons d'un modèle très très particulier, très particulier. C'est un ovni à Ryanair. Pour moi, ça n'est pas le modèle low cost.
Ce qui se passe chez Ryanair, c'est donc pas un avertissement pour Transavia, EasyJet ou Volotea, selon vous ?
Absolument pas. Absolument.
Ça n'a rien à voir.
Rien à voir. Je dirais même que le grand gagnant de cet épisode actuel, ça ne va pas être Air France, ça va être EasyJet qui se frotte les mains.
Yves Lambeau, depuis Charleroi, sur cette histoire de bras de fer, de rapport de force entre la compagnie que vous connaissez parfaitement, Ryanair, et les collectivités locales, et le contribuable français finalement.
Oui, enfin, en tout cas ici en Belgique, c'est vrai qu'il y a eu des aides de la part de la région Wallonne qui ont été distribuées et qui ont après diminué parce que c'est une région défavorisée, si on veut, en termes d'emploi. Et donc il y avait une main d'œuvre disponible, mais c'est quand on voit l'aéroport de Charleroi qui est un des plus gros ici au niveau Belgique, enfin au niveau européen plutôt, mais voilà, c'est 5000 personnes quasiment qui travaillent à l'aéroport et aux alentours de l'aéroport. Ça s'est fait progressivement, mais c'est tout un développement et c'est vraiment un essor économique pour toute la région. Et quand on compare ça par rapport à ce qui se fait dans d'autres entreprises qui reçoivent des aides aussi, des aides à l'implantation ou au bâtiment, mais voilà, on peut en tout cas considérer que ce sont des aides qui ont été largement justifié et raisonnable.
Yves Lambourg, on a une question pour vous d'un auditeur qui nous a contacté sur la page de l'émission, le site franceinter.fr. Pourquoi le personnel français de Ryanair ne s'est-il pas joint à la grève? Est-ce parce qu'il est mieux payé?
Non, je ne pense pas qu'il soit mieux payé, mais la France, c'est tout à fait une prédisposition. Depuis 2007, le gouvernement français a pris des dispositions pour que ce qu'on appelle la sécurité sociale soit payée directement en France. Et à partir de ce moment-là, vous n'avez plus eu de base d'affectation. Les bases d'affectation, c'est l'endroit où la personne commence habituellement sa journée ou termine habituellement sa journée, et vous n'avez plus de base de cette manière-là en France. Vous avez des avions qui viennent chez vous, dans les lieux touristiques et les lieux appréciés de tous les voyageurs, mais ces avions viennent de l'extérieur, et donc, selon moi, vous n'avez pas de base d'affectation en France.
Emmanuel Combes,
les avions sont de passage chez vous.
Vous le confirmez, Emmanuel Combes, oui, aucun avion de Ryanair ne dort, pour dire les choses, sur l'aéroport français.
Ryanair avait une base à Marseille, je ne sais pas si vous vous souvenez. Elle a été condamnée pour non-paiement des cotisations sociales. Elle a fermé sa base et en effet, pour l'instant, il n'y a pas de base. Mais si ma mémoire est bonne, Michael O'Leary a annoncé qu'il souhaitait revenir sur le territoire français avec des bases. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu, hein, vous le savez, les syndicats, qui est la première étape, à mon avis, pour ensuite reconnaître l'application du droit local. Je crois que c'est une des revendications, d'ailleurs, des pilotes et des PNC.
On va quitter l'aérien quelques minutes. Véronique Nguyen, vous avez fait paraître en 2012 et donc co-écrit avec Michel Santi le livre Le business model du low cost. Il ne s'agit pas seulement de l'aérien. On va prendre l'exemple d'Uber, la plateforme de réservation de VTC, les voitures avec chauffeur. On a appris qu'à New York, désormais, il y a obligation d'assurer un salaire minimum aux chauffeurs. C'est la ville de New York qui l'a décidé. Est-ce qu'on peut imaginer que le législateur français ou qu'une collectivité locale en France fasse la même chose?
Oui.
Des salariés
ce qui est intéressant, c'est que le cas des taxis, nous, on l'avait identifié en 2012 en disant que justement, c'était un secteur dans lequel il serait très difficile pour un acteur low cost d'émerger parce qu'il y avait un excès de réglementation. Et donc là, on a un acteur qui a été particulièrement malin, qui a réussi à contourner le système en place pour pouvoir s'imposer. Et donc, le législateur qui a toujours 1, 2, voire 3 temps de retard, a un petit peu de mal à reprendre la main. Mais sans nul doute, je pense que le mouvement qui s'est initié à New York va se répandre.
Donc le message pour tous les salariés d'Uber, c'est soyez patients. On est en train d'améliorer la loi.
Ben, on voit bien ce qui se passe à Londres, à New York et dans les autres villes. En fait, tous ces entrepreneurs de la Silicon Valley, ils surfent sur le non-droit. Et donc, tant qu'il n'y a pas de réglementation qui les contraint, ben, ils étendent leur sphère d'activité autant qu'ils peuvent.
Il y a effectivement quelques petites choses qui bougent à l'échelle européenne. Uber propose depuis le mois de juin une meilleure couverture à ses chauffeurs en cas d'événement, c'est l'expression, survenu pendant la course ou en dehors de la course. Donc on va globalement vers un peu moins de précarité, Emmanuel Combes?
Oui, et en même temps, attention à ne pas toujours penser la réglementation comme un surcroît de règles. On peut aussi peut-être alléger les règles qui pèsent sur, entre guillemets, les anciens modèles.
Des petits exemples?
Eh bien, typiquement, les taxis, me semble-t-il, n'ont pas le droit, sauf pour aller, je crois, à Charles de Gaulle et à Orly, de faire de la course au forfait, alors que c'est le modèle d'Uber. On pourrait tout à fait imaginer que le marché des taxis, le marché de la réservation des VTC convergents, ils soient soumis aux mêmes règles. Donc les règles, c'est pas forcément plus de règles, c'est plus de règles en matière de droit du travail. Je crois que personne ne le conteste. Attention, il y a parfois des goulots d'étranglement sur ces anciens modèles qu'il faudrait peut-être aussi réviser.
Yves Lambeau, optimisme partagé chez vous. On va vers un peu moins de précarité pour tous les salariés du low cost.
Mais c'est ce que l'on espère. En fait, la Commission européenne a pris cette décision-là il y a déjà quelques années et on devrait y être en 2022. Mais ce que nous voulons, c'est que la Commission européenne, alors que Ryanair bafoue allègrement toutes les règles actuellement, mais prenne ses responsabilités. Je ne peux pas comprendre que de grosses sociétés américaines aient des amendes qui se chiffrent parfois en milliards d'euros et que Ryanair bafoue tout à fait la législation qui a été reconnue et rappelée par la Cour de justice européenne où nous avons été en procès chercher cette décision-là et ne fasse rien. Je pense que c'est bien des personnalités qui ont les moyens de pouvoir faire les choses, mais je pense qu'il ne faut peut-être pas un excès de réglementation, mais si dans tous les pays, vous n'avez plus de sécurité sociale payée par l'employeur, mais vous avez une ubérisation qui va prospérer et qui est relativement dramatique pour tous les États.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telsonne.
Et nous accueillons sur France Inter Olivier qui nous appelle depuis Brest. Bonsoir Olivier.
Oui, bonsoir. Bah écoutez, je suis assez d'accord avec l'intervenant précédent et je pense que cette entreprise, un petit peu comme les autres Uber, l'ubérisation de la société, c'est pas du tout du low cost. C'est juste que c'est un transfert de la finance vers d'un pôle à un autre. Et je pense que en ce qui concerne l'aérien, il faut savoir qu'à un moment, nous allons avoir des externalités négatives. Nous allons avoir des coûts parce qu'il y aura des accidents. Quelqu'un qui travaille autant que ces personnes-là dans des avions qui survolent des zones habitées, à un moment, il y aura un accident. Il n'y a pas si longtemps, j'ai mon frère qui est pilote chez Air France, ils sont passés à la façon chirurgicale de procéder. C'est-à-dire qu'il y a toujours, chaque chose est vérifiée deux fois. Et pour des entreprises telles que Ryanair, mais il y en a d'autres, hein, voilà, je ne connais pas tous, mais bon, toutes, mais bon, voilà. En fait, ils rechignent sur les travaux, ils ne restent pas assez à terre parce qu'ils ne veulent pas payer de location à Air France, à Aéroport de Paris, enfin Beauvais et tout ça, et que un avion à terre, ça coûte de l'argent. Donc, ils ne font pas les réparations. À un moment, il va y avoir des pertes humaines, mais genre des centaines. D'un
bon,
coup,
c'est...
Et d'autre part, attendez juste, et d'autre part, je pense qu'on nous ment quand on nous dit low cost, parce que en fait, quand on atterrit à Beauvais, il faut 80 euros pour retrouver ceux qu'on voulait voir, parce que effectivement, c'est hors des lignes de métro, hors ligne de TGV, hors ligne de machin, et du coup, c'est extraterritorial, et du coup, en fait, c'est une concurrence des territoires qui fait que nous n'avons pas les moyens de s'acheter un billet, on prend le Ryanair et en fait on se retrouve à payer plus cher. C'est comme quand on va chez Kiabi, vous parliez des vêtements l'autre jour, c'est comme quand on va chez Kiabi, c'est parce que c'est les pauvres qui prennent ça, on n'a pas les moyens, et puis manque de bol, ça craque au bout de deux ans.
Bon, pour l'instant, Ryanair n'a pas craqué. Merci Olivier, mais on comprend votre inquiétude. En tout cas, on écoute votre inquiétude. Et on va donner la parole évidemment à Yves Lambeau, qui vous a écouté depuis la base Ryanair de Charleroi. Est-ce qu'Olivier a raison de s'inquiéter, de dire qu'un jour ou l'autre, ça va craquer ?
Non, enfin ça je ne pense pas. Toutes les règles de sécurité sont vraiment bien faites chez Ryanair. En plus, ce sont toujours les mêmes avions, avec une flotte très nouvelle. Et c'est des avions qui sont vendus après ailleurs. Donc non, dans ce cadre-là, je n'ai aucune crainte. Les petites craintes qu'il y a, ben, c'est parfois le personnel qui est mis à rude épreuve et qui est plutôt forcé à faire de la vente de parfums, de chocolat et d'autres choses, plutôt que de rappeler les consignes de sécurité et être plus attentif aux consignes de sécurité. Mais en termes de sécurité, dans ce cadre-là, je ne suis pas du tout d'accord avec l'intervenant.
Emmanuel Combes.
Oui, je confirme par rapport à ce que disait, je crois, Olivier. En réalité, les statistiques... Ryanair a 30 ans, hein. Ça n'est pas une compagnie récente. Les statistiques nous montrent que, paradoxalement, les compagnies low-cost sont les plus sûres. Je vous rappelle que la plus ancienne compagnie low-cost, qui est la plus grosse compagnie au monde, c'est Southwest Airlines. 50 ans d'existence, aucun accident fatal.
Accident fatal, mais bon, on ne va pas non plus être hypocrite. Il y a quand même eu des atterrissages avec des réservoirs de carburant très, très, très vides pour Ryanair et des atterrissages qui ont été qualifiés d'atterrissages d'urgence.
Sans doute, mais il n'en demeure pas moins que quand vous regardez les classements, tout ça est fait de manière très sérieuse. il vous montre qu'en moyenne, les compagnies low cost sont plus sûres. C'est tout simple. Hein. Je crois que le marché ne leur pardonnerait pas le moindre accident. Paradoxalement, elles n'ont pas droit à l'erreur. Secondement, elles sont très riches. Ce sont les compagnies les plus rentables. Qu'est-ce qui fait que vous négligez la sécurité? C'est que vous n'avez pas d'argent. Troisièmement, elles ont des avions récents. Il y a une corrélation assez forte entre l'âge des avions et la probabilité d'avoir un accident fatal.
Véronique Nguyen.
Oui, je pense qu'il a parfaitement raison d'insister sur le fait que c'est une flotte unique qui est neuve et qui donc est beaucoup plus simple.
430 avions, ce sont les mêmes.
Les mêmes, donc c'est beaucoup plus simple à manipuler, beaucoup plus simple à entretenir. Et donc le risque de sécurité, il n'est pas plus élevé que chez les autres compagnies.
Alors, je veux pas jouer les Cassandres, hein, mais on va pas refaire l'émission non plus d'il y a 15 jours sur la sécurité aérienne, mais on va rappeler ce chiffre. Le secteur va devoir recruter 600 000 pilotes d'ici à 2030. La demande de pilotes plus forte que l'offre. On assiste peut-être déjà à une fuite des navigants qui quittent les low cost à tour de bras pour se faire embaucher dans des compagnies traditionnelles qui payent mieux et dans lesquelles on travaille moins. C'est quelque chose auquel vous assistez déjà, Yves Lambeau, chez Ryanair?
Oui, tout à fait, c'est vraiment le cas, et c'est aussi un des moyens de pression, évidemment, vu que, si vous voulez, un pilote en Belgique va gagner près de 100 000 euros, un peu moins, mais ils sont appelés, et bon, là, ça mérite, enfin, ce sont des délocalisations, mais ils sont appelés en Chine pour gagner près de 300 000 euros. Donc, pour des jeunes pilotes qui ont la possibilité de voler, s'expatrier pendant 2-3 ans, c'est déjà s'assurer un matelas confortable. Et puis après, si la vie dans ce pays-là se passe bien, évidemment, et c'est un des moyens de pression actuellement, c'est la fuite des pilotes, parce qu'avant même les grèves, il y avait déjà beaucoup, mais c'était pas reconnu par Ryanair. On dit c'est le tonnerre, il y a eu des choses paradoxalement rien que chez Ryanair. Mais c'était des vols qui étaient complètement annulés par manque de personnel au niveau des cabines et surtout des pilotes.
Et j'en reviens à mon histoire de sécurité. La conséquence de tout cela, c'est qu'on va se retrouver dans quelques courtes années avec des pilotes débutants. Uniquement débutants dans les cockpits de low cost. Est-ce que ça ne va pas poser?
Non, mais ce n'est pas gênant parce que les appareils sont tellement sophistiqués qu'ils pourraient pratiquement voler sans pilote.
Vous avez des standards de sécurité. Mmh. Les normes sont très strictes en Europe. On ne vole pas plus de 900 heures. On est deux en cockpit. Et puis, troisièmement, comme vous, on a toujours commencé un jour.
Donc, avec quelqu'un de plus âgé en général à côté.
Ah oui, de toute façon, je crois que c'est même. Alors, je ne sais pas si c'est une obligation légale à vérifier, mais en tout cas, c'est une pratique courante. Mais pour revenir sur cette histoire, sans vouloir tomber dans la lutte des classes, quand on parle de marché tendu, on parle surtout du marché des pilotes. Pour les personnels navigants commerciaux, je ne suis pas sûr que la situation soit forcément plus favorable. Enfin, Yves va peut-être nous le dire. Mais là, quand on parle de hausse de salaire, quand on parle de fuite massive, on parle, me semble-t-il, d'abord des pilotes.
Yves Lambeau, tout petit mot pour confirmer ou infirmer ce que nous dit Emmanuel Combes. La fuite ne concerne que les pilotes?
Oui, actuellement, c'est vrai, mais la fuite, en fait, commence à être dramatique aussi pour le personnel de cabine, parce que, comme je vous le dis, on leur faisait des promesses au niveau des salaires. Ils viennent de pays, je dirais, plus défavorisés, tels que la Roumanie, avant c'était le Portugal et l'Espagne. Voilà, on leur promettait certaines sommes, et quand ils viennent, et actuellement, ils ne gagnent plus que 1000 euros, comme je vous le disais, en Belgique, ce sont des salaires qui sont intenables, en dessous du minimum légal. Et donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, on attend des réactions politiques. Mais les gens ne veulent plus voler à ces prix-là. Nous avons fait grève le mois passé, mais il y a des gens qui étaient là depuis 2 mois et qui étaient déjà là à faire la grève parce qu'ils disent « je ne veux plus pouvoir continuer dans des conditions telles que celles-là ». Donc il faut que les choses changent.
19h41, on file chez Manon dans les Alpes-Maritimes. Bonsoir Manon.
Bonsoir.
Vous êtes une voyageuse, une consommatrice.
Oui, je suis une consommatrice de façon générale. Et en fait, il y a quelques années, j'ai pris le pli de toujours recourir à des entreprises low cost parce que c'était moins cher et je ne souhaitais pas payer des choses que je jugeais pour moi inutiles, comme le repas dans l'avion ou alors pouvoir choisir ses sièges. Et depuis quelques temps, avec la multiplication des scandales, des articles et des grèves, je suis en train de me rendre compte que le low cost, à mon sens, coupe plutôt les coûts humains. Et j'ai plus trop envie de participer à ça, donc je suis en train de repartir sur des entreprises standards avec des vrais droits de travail, des choses comme ça.
Et quitte à payer quelques dizaines d'euros de plus.
Complètement.
Merci de votre témoignage, Manon. Est-ce que la démarche de notre auditrice est une tendance? Est-ce que le critère numéro un du consommateur, ça reste le tarif? Ou ils sont de plus en plus nombreux, les passagers, à s'interroger sur les conditions de travail de ceux qui les pilotent? Emmanuel Combes.
Malheureusement, je vais vous décevoir. Je pense que à la fin du mois, le consommateur, et au début du mois aussi, regarde le prix du ticket. Un ticket moyen, chez Ryanair, vous disiez tout à l'heure 5 euros. En réalité, quand on regarde le ticket moyen, ça peut être très cher. Hein. Ça va de 5 à 300 euros. C'est 45 euros sans bagage. Sur EasyJet, on est sur un ticket à 85 euros, deux fois plus cher. C'est pas les mêmes coûts. Et sur une compagnie qu'on appelle historique, Legacy, on est plutôt sur des tickets moyens, 150, 180 euros. Je parle d'un vol de moins de deux heures, hein. Donc, si vous voulez, le client regarde cela à la fin, plus la fréquence, plus la qualité des horaires. Mais pour la clientèle touristique, le low cost a de très, très beaux jours devant lui. Et je pense même, c'est une opinion personnelle, qu'on n'a encore rien vu. C'est-à-dire que la France est une terre de conquête pour le low-cost aérien. N'oubliez pas que le low-cost aérien en France, c'est de l'ordre de 30% de part de marché. En Europe, on est sur 40-45% de part de marché. EasyJet considère la France comme une terre de conquête.
Véronique Nguyen, vous êtes d'accord avec votre collègue économiste Emmanuel Combes?
Oui, je suis parfaitement d'accord dans le sens où le modèle low-cost est destiné à s'étendre sur le secteur de l'aérien, mais aussi dans bien d'autres domaines. Et c'est quelque chose qu'il faudrait aussi noter, parce que on parle beaucoup de l'aérien, mais le low cost aujourd'hui, c'est les cosmétiques, c'est les lancements de navettes ou de fusées, c'est le non alimentaire, c'est plein de domaines dans lesquels on ne l'attendait pas et où aujourd'hui, il fait des percées phénoménales.
Mais on peut prendre 30 secondes pour citer effectivement quelques domaines où le low cost a fait son trou et continue de le faire.
Prenons le retail, donc la distribution. Il y a un seul type de magasin qui progresse en France, c'est le discount non alimentaire. Et nos auditeurs connaissent forcément les Actions ou Stockomanie. Donc, ces magasins où vous pouvez acheter des produits de bazar à très bas prix, selon les recettes du low cost dans le retail. Et on voit ça dans une multitude de secteurs. Et moi-même, je suis surprise de voir que on voit le low cost dans les salles de gym low cost, dans la restauration, dans une multitude de domaines où finalement, la recette low cost a été dupliquée et appliquée avec succès.
D'un mot, Emmanuel Combes.
Manon a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Dans le low cost, il y a l'idée « je paye ce que je veux ». Et je ne veux pas payer pour le superflu. Et c'est aussi ça une tendance, au-delà du prix de fond du consommateur. Si je ne veux pas de bagages, si j'ai fait le choix d'aller à Beauvais, eh bien, c'est mon choix. Je paye le juste prix. Et ça participe du succès du low cost.
Mohamed nous appelle de Bordeaux. Bonsoir Mohamed.
Oui, bonsoir. Tout d'abord, merci à France Inter pour l'organisation de ces débats de qualité. Et ma question, enfin, mon commentaire et la question est la suivante. Je suis aujourd'hui un peu interpellé parce qu'on met Ryanair à l'index pour les deux raisons. La première, c'est que c'est peut-être aujourd'hui qu'on a commencé à dépecer Air France qui passera probablement bientôt sous pavillon étranger, sous capital étranger, comme l'a été Alstom et d'autres entreprises. La deuxième remarque, c'est que finalement le modèle aujourd'hui de Ryanair est malheureusement le même que celui de Google, que celui d'Uber. Et donc on peut se poser aujourd'hui la question, est-ce que ce n'est pas un modèle économique qui arrive à sa limite, comme l'a décrit un grand économiste, et sans vouloir paraphraser une des personnes qui a parlé avant moi, elle a parlé de lutte des classes, je ne fais pas ce vocabulaire mien, mais je suis quand même obligé de m'interroger, comme beaucoup de personnes, sur l'extrême concentration des moyens qui font qu'on paupérise. Quand Amazon s'installe dans un endroit, les salaires baissent, il n'y a plus de libraires, et quelqu'un comme Trump, aujourd'hui, a décidé récemment d'augmenter les tarifs des postes des US, parce qu'en fait, c'est une subvention indirecte à Amazon. Voilà. Merci en tout cas pour avoir pris mes remarques et bravo pour le travail que vous faites.
Merci Mohamed de ces remarques et de cette question très très large, très vaste à nos invités Emmanuel Combes. Est-ce qu'effectivement Ryanair n'est pas l'arbre qui cache une forêt gigantesque?
Je suis surpris en réalité du propos de Mohamed parce que ce qui caractérise l'Europe par rapport aux États-Unis en matière aérienne, c'est que c'est un marché très fragmenté. Ryanair a 12% du marché européen. Aux États-Unis, savez-vous que les 6 premières compagnies ont 90% du marché. En Europe, les 6 premières compagnies font 40% du marché. On a encore un marché assez éclaté. Alors c'est vrai que Ryanair, vous avez raison, avec 430 appareils, paraît un géant. N'oubliez pas qu'il y a derrière les grandes compagnies historiques, hein. Vous avez Air France, vous avez Lufthansa, vous avez EasyJet, vous avez Norwegian. On a un marché où il y a beaucoup d'acteurs. Et d'ailleurs, vous le savez peut-être, les prix en moyenne en Europe sont plus bas qu'aux États-Unis à cause de cette concurrence entre compagnies.
Le futur nouveau, je ne sais pas comment il faut l'appeler, c'est une question de seconde, président d'Air France, le Canadien Benjamin Smith, vous pensez qu'on l'a choisi pour qu'il vienne avec des méthodes nouvelles de résistance ou d'adaptation au low cost, Véronique Nguyen?
C'est effectivement sa feuille de route, mais surtout sa feuille de route, c'est d'arriver à embarquer les syndicats de pilotes qui, pour l'instant, n'ont pas du tout la même vision que le top management et les actionnaires d'Air France. Et donc, on se retrouve avec une entreprise qui est non réformable jusqu'à présent. Et donc, effectivement, son défi, ça va être de redresser Air France et lui faire rejoindre le niveau de profitabilité de ses consoeurs. Ensuite, je pense que la question de Mohamed, c'était plutôt une question sur quelle est la direction que prend le libéralisme. Et donc, à travers la critique du low cost et la critique des grands de la tech, c'est est-ce que la somme des intérêts individuels et des intérêts de ces grandes entreprises va produire le bien commun? Et je pense qu'avec Emmanuel, on ne partage pas la même opinion, donc je ne suis pas sûre que ce soit le moment d'en débattre.
Yves Lambeau, je rappelle que vous êtes secrétaire permanent du syndicat des employés CNE à Charleroi en Belgique. Pour reprendre l'expression de Véronique Nguyen à l'instant, la direction que prend le libéralisme, et puisque sous-entendait Mohamed à l'instant, c'est quelque chose qui vous inquiète. On n'a encore rien vu dans le domaine du low cost?
Oui, non, tout à fait. C'est inquiétant pour les rapports humains, pour les gens qui travaillent dans les sociétés. Ce n'est jamais qu'un rabotage de leurs conditions de salaire et de leur bien-être en général. C'est une flexibilisation qui devient outrancière. Et pour prendre le cas de Ryanair et des cabines, on en retourne à un certain esclavagisme. Et c'est bien ça qui est dramatique. Alors que quand vous prenez un avion, je terminerai peut-être par ça, mais quand vous partez de Bruxelles et que vous allez jusque Montpellier, Carcassonne, pour 40 euros de prix moyen, on peut très bien arriver, je crois que vous l'avez cité tout à l'heure, EasyJet qui en arrive à un prix moyen de 80 euros, mais en augmentant de 20% ou de 50% le prix moyen de Ryanair, ben vous arriviez à des 60 euros. Et pour faire des trajets tels que ceux-là, ou aller dans le sud de l'Italie en partant de Bruxelles, je pense que c'est pas du tout exagéré et qu'il y a largement moyen de le faire. Quand on est une société qui gagne près de 1,4 milliard par an, on a largement les moyens de rétribuer correctement son personnel.
France Inter, Arnaud Bousquet, le téléphone sonne.
Est-ce qu'on sait si le développement des compagnies low cost oblige les compagnies traditionnelles à baisser leurs tarifs pour essayer de coller au low cost, ou ça les incite plutôt à améliorer leurs prestations, rehausser le niveau de service, histoire de marquer leurs différences, Emmanuel Combes?
Les deux, mon capitaine. Elles montent en gamme sur le long courrier, notamment pour faire face à la pression des compagnies du Golfe, et sur le court moyen courrier, elles n'ont pas d'autres choix, en effet, que de baisser les prix. Mais vous savez, quand vous baissez les prix sans baisser les coûts, eh bien, vous faites des pertes. Donc tout l'enjeu pour Air France, puisque vous évoquiez le sujet à l'instant, c'est en effet comment donner de la puissance à sa filiale Transavia, qui je vous rappelle est une belle réussite, mais qui pour l'instant est limitée dans sa croissance, puisqu'elle ne peut pas, pour des raisons d'accord avec les syndicats, dépasser la taille, je crois, de 40 appareils. Donc ça va être un vrai sujet, comment Air France va prendre le chemin du low cost. Donc vous voyez, on est bien loin de l'idée, la fin du low cost. Le vrai sujet, c'est comment Air France va s'engager dans le low cost, y compris le low cost long courrier.
Merci d'avoir posé cette question, parce qu'en fait, le seul moyen pour les compagnies aériennes traditionnelles de s'en sortir, c'est d'imiter les low cost. Et donc c'est pour ça que dans tous les groupes aériens classiques, traditionnels, il y a des filiales low cost qui se créent, et non seulement dans le court et moyen courrier, mais la nouveauté, c'est qu'il y a des filiales long courrier. On regarde Level, qui est la filiale d'AIG, et donc il y a vraiment une extension du domaine du low cost, même chez les compagnies qui étaient rétives au départ, qui disaient non, on ne peut pas le faire.
Alors, au début du phénomène low cost, on a vu ces compagnies comme des concurrentes d'Air France, de British Airways. Maintenant, j'ai l'impression que la tendance s'inverse. On voit les compagnies traditionnelles qui ouvrent des destinations pour aller concurrencer les low cost. Catane, Marrakech, Palma. Air France n'y allait pas avant. Maintenant, oui. C'est quoi la stratégie?
Alors, faut demander à Air France. Je pense que la stratégie, c'est d'occuper déjà le marché Hein, pour, faut bien voir que
quitte à aller au combat sur ces destinations.
Air France tient encore relativement bien ses positions en France. Hein, sur Orly, elle reste encore. Hein, amusez-vous à regarder un tableau Orly avec les vols au décollage. Vous avez Air France, Transavia et EasyJet. Point barre. Hein. Donc elle tient encore relativement bien le marché au départ de la France. Elle n'a pas d'autre choix que d'aller se battre avec les low cost. La question, c'est aller se battre avec un low cost quand on a des coûts au siège kilomètre entre 10 et 11 centimes et qu'EasyJet est à 6, ça devient compliqué. La solution, on la connaît. Il faut passer un certain nombre de lignes en mode low cost. Et attention, low cost, je nuancerai un peu ce que dit Yves, on peut faire du low cost propre. Southwest Airlines est une compagnie low cost aux États-Unis.
Est-ce que, par exemple, le statut d'auto-entrepreneur obligatoire pour les pilotes de Ryanair, c'est du low cost propre?
Non, pour moi non, mais c'est une opinion. C'est une opinion.
Et je pense qu'Yves Lombeau sera d'accord avec vous, on va l'écouter. Ce statut d'auto-entrepreneur, c'est un facteur aggravant pour la qualité de vie, au sens très large, des pilotes de Ryanair?
Oui, tout à fait, tout à fait. Nous, on les appelle les faux indépendants. Oui, non. Quand vous êtes indépendant, mais que vous ne travaillez que pour une seule entreprise, vous êtes un faux indépendant. Et ça vous soumet, encore une fois, à une flexibilité accrue auprès de cette compagnie. Et donc, et c'est souvent avec des conditions là de rémunération qui sont bien plus embêtantes. Et d'ailleurs, ici, il y a eu l'auditorat du travail de Charleroi qui est descendu sur la base de Ryanair et qui a constaté ce que nous disions depuis plusieurs années, mais à savoir que les sécurités sociales ne sont pas payées, ou elles sont payées, mais c'est des sociétés qui sont basées à la demande de Ryanair, mais qui sont basées à l'île de Man ou dans des paradis fiscaux. Et donc, quand vous êtes là-bas, il est clair que vous n'avez pas la même rentabilité que un vrai indépendant qui paye ses lois sociales et tous les impôts dans le pays dans lequel il travaille.
Ces dernières semaines, on a fait des émissions sur la sécurité aérienne, sur le dérèglement climatique, sur les nouveaux modes de voyage. Donc finalement, aujourd'hui, c'est un peu la synthèse des trois. Le billet d'avion à 5 euros qui est réservable en 3 clics et 45 secondes, c'est vrai que ça incite à collectionner les destinations, les petits voyages, un selfie devant la tour de Pise, et puis on rentre, et puis le mois prochain, ça sera Barcelone. Est-ce que cette frénésie de voyage passera de mode, selon vous, chez les consommateurs? Véronique Nguyen.
Non, pas du tout. Parce que c'est une tendance de fond que l'on observe. Dans la distribution, il y a une baisse de la fréquentation parce que les gens ne veulent plus aller en magasin pour consommer. Enfin, ils y vont de moins en moins parce qu'ils y trouvent de moins en moins de plaisir. En fait, ce que veulent vivre les consommateurs, c'est des expériences. Et c'est pour ça que l'aérien est destiné à prospérer parce qu'en fait, il permet aux gens de sortir de chez eux, de se divertir, de pouvoir se mettre en scène dans les réseaux sociaux, dans des positions valorisantes. Donc, le voyage low cost est destiné à se développer, et j'irai même encore plus loin, c'est-à-dire que le rapport de force entre ce qui n'était pas low cost et low cost va s'inverser. Je pense que dans le futur, on aura 80% des voyages qui seront low cost, y compris dans le business, et 20% qui seront, on va dire, traditionnels, où les gens seront prêts à payer les prix qu'on observe aujourd'hui.
Je rebondis sur ce que vous dites, les entreprises s'y mettent, hein. C'est plus seulement une affaire de touristes, low-cost Emmanuel Combes.
Non, EasyJet, alors de mémoire, doit avoir 20-25% de clients en business. Non, le low-cost n'est pas réservé au tourisme. Il est né avec le tourisme et l'étudiant, et il a évolué vers le businessman, ce qu'on appelle aussi les city breaks, ceux qui ont des résidences secondaires, qui vont voir la famille, etc. C'est un marché qui, en effet, pour moi, va dominer, en tout cas sur le low-cost, sur l'aérien d'ici 10 à 15 ans.
Et sur ce que nous explique Véronique Nguyen, la mode du selfie devant la tour de Pise, il n'y a aucune raison pour qu'elle passe.
Écoutez, il faut demander à ceux qui font des selfies dans la tour de Pise. Mais
collectionner.
Moi, j'aurais tendance à penser que le consumérisme n'est pas passé de mode. Et à nouveau, il y a la morale d'un côté, et puis il y a quand même l'envie de liberté et de voyager. Hein.
Alors, dans la catégorie morale, il y a la conscience écologique. Est-ce que, de temps en temps, le consommateur y prête une petite attention ou toujours pas, Véronique Nguyen?
Oui. En fait, on aurait pu espérer, quand on a vu l'émergence de ce modèle low cost, que les gens allaient verser vers le côté, on va dire, vertueux du low cost, c'est-à-dire se concentrer sur la satisfaction du besoin premier et renoncer à cette frénésie d'achat et basculer peut-être dans cette sobriété vertueuse, donc dans cette déconsommation. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est moins cher et donc les gens ne consomment pas moins, ils consomment beaucoup plus de beaucoup plein de choses. Voilà, d'objets, de voyages, d'expériences.
Pour un même budget.
Pour un même budget, ils vont multiplier les achats. Et donc, s'il n'y a pas une prise de conscience globale de l'impact que ces voyages ont sur, on va dire, le réchauffement climatique, la planète, bah, il n'y a aucune raison que le mouvement ne s'inverse.
Véronique Nguyen, vous expliquez dans votre livre « Le business model du low cost » qu'au début, tout le monde en prédisait l'échec. Et au final, non seulement les low cost fonctionnent, mais avec des marges presque insolentes. Et ça, ça vaut pour tous les domaines.
Oui, mais parce que c'est un paradoxe total. C'est un truc qui est incompréhensible au départ. Vous vendez moins cher et vous gagnez plus d'argent. Comment c'est possible? Donc les gens qui étaient bousculés dans leur manière de faire traditionnelle disaient « Non, mais ce sont des fous, ils ne vont jamais réussir ». Et donc, ça a commencé avec l'aérien, puis la recette a été bien analysée, elle a été dupliquée ailleurs, et il n'y a aucune raison que ça ne s'étende pas, parce que finalement, il y a une appétence pour consommer, il y a une paupérisation générale, et donc, le business model du low cost va continuer à cartonner.
Et donc, on va terminer par là où on avait commencé, le bon président de Ryanair, il va lâcher, mais a priori pas grand-chose, Emmanuel Combes.
Ce qu'il a toujours fait depuis 30 ans, attendre le dernier moment, s'adapter, et se relancer. Ça fera baisser ses marges, mais il restera toujours la compagnie la plus rentable que Louis Vuitton. Il faut quand même le faire.
Et les secteurs low cost qui vont exploser dans les prochains mois, les prochaines années, est-ce que vous avez déjà réussi à modéliser un petit peu cela dans vos études, Véronique Nguyen?
Regardons la téléphonie. Quand Free s'est lancé, ça a été un grand moment d'interrogation pour les opérateurs traditionnels. Ils ont finalement imité la formule low cost et aujourd'hui 40% des abonnements, c'est du low cost. Vous regardez le TGV, les prévisions, c'est que pour 2020, 25% du trafic TGV, ce sera du Ouigo. Donc vous pouvez prendre tous les secteurs les uns après les autres, sauf l'alimentaire, pour des raisons qu'on n'a peut-être pas le temps de développer, mais c'est une tendance qui va se généraliser.
En 10 secondes, Emmanuel.
Je crois qu'on va aller vers une polarisation pour ne pas désespérer nos auditeurs. Le luxe, la nourriture ne seront pas low cost. Tout le reste va passer peu ou prou au low cost.
Je vous remercie tous les trois pour ce panorama détaillé de ce qui est devenu et de ce que devrait devenir le modèle low cost. Yves Lambeau, le syndicat CNE, en direct de Charleroi en Belgique. En studio à Paris, Véronique Nguyen, votre livre « Le business model du low cost » aux éditions Erol. Et Emmanuel Combes, économiste, vice-président de l'autorité de concurrence. On vous doit aux éditions de la découverte le livre sobrement intitulé « Low Cost », paru en 2011. On raccroche pour ce soir le Téléphone Sonne, émission que réalisait Clément Nouguier, accompagné à la technique d'Elisabeth Collet et Arnaud Caillé. On n'oublie pas Caroline Baudry, Justine Bilré et Pierre Gaufre à la préparation du Téléphone Sonne. Et on se dit à demain, s'il vous plaît, pour une émission qui fera débat. Peut-on encore utiliser les animaux pour nous divertir? À la télé, au cirque, dans les parcs, vos questions ne manqueront pas, j'en suis sûr.